Bonjour à tous, c'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale de Fréquence Mistral, proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Sommaire de ce magazine, mobilisation générale pour la semaine nationale de prévention du diabète en PACA. Le reportage de Chris Alessandri pour Force 7. Digne prépare le forum de la transition écologique qui aura lieu les 23 et 24 septembre. Le reportage d'Odile Frison dans ce magazine. Digne encore, le week-end prochain, la randonnée sera la fête. Des détails dans un instant. La culture est une compétence majeure de Durance-Luberon-Verdon agglomération. Président et vice-présidente ont présenté la saison à venir. Nous entendrons Jean-Christophe Petrini et Sandra Faure. L'agglomération dinoise lance un appel à candidature pour le marathon de la biodiversité. L'interview de Nicolas Morel à la fin de ce magazine. Diabète, une semaine nationale pour sensibiliser et prévenir.
Du 23 au 30 septembre a lieu la 11e édition de la Semaine nationale de prévention du diabète et à cette occasion, l'Association des diabétiques des Alpes du Sud 0405, l'AFD, met en place de nombreuses actions d'information et de prévention sur un sujet méconnu, le lien entre diabète et tabagisme. Cette période de sensibilisation est organisée dans l'objectif de toucher le plus de personnes possible. Le diabète est à l'heure actuelle une vraie pandémie. Plus de 4 millions de personnes sont aujourd'hui touchées par cette pathologie en France. À ces chiffres viennent s'ajouter entre 500 à 800 000 personnes qui ignorent qu'elles sont atteintes de diabète de type 2. Ce dernier représente 92% des personnes diabétiques. La maladie survient particulièrement chez l'adulte de plus de 45 ans et touche davantage les personnes sédentaires et en surpoids. En région sud, le nombre de patients atteints d'un diabète est de 190 000, soit 6% de la population, un taux de prévalence supérieur à la moyenne nationale. Éric Tamin, président de l'Association française des diabétiques des Alpes du Sud, répond aux questions de Chris Alessandri.
Éric Tamin, petite présentation sur l'association en elle-même et son action, le principe de son action.
Oui, bonjour. Donc, l'Association française des diabétiques des Alpes du Sud, qui est appelée plus communément AFD 0405, c'est comme ça que vous pourrez la visualiser sur tous nos supports, est présente pour apporter du soutien, apporter de l'accompagnement aux personnes diabétiques, mais surtout à une énorme mission, c'est de faire de la prévention. On est dans une situation mondiale où le diabète est devenu... une pandémie, on parle donc de la Covid, mais la Covid, on va s'en sortir, mais du moins, le diabète va être là, et toujours là, et va continuer à se développer. La prévention a donc toute son importance, a tout son sens au quotidien, et là, justement, durant cette semaine de prévention au mois de septembre, on va mettre les bouchées doubles. Dans nos missions également, au quotidien, on est là toute l'année. Nous faisons donc sur 5 sites, sur nos 2 départements, c'est-à-dire Manosque, Sisteron, Gap, Briançon, Saint-Bonnet et bientôt d'autres lieux, des missions d'éducation thérapeutique. C'est également gratuit. Nous faisons également des balades. En général, nous faisons sur le Val d'Urance une balade. Alors, on se dit bien que ce sont des balades. On fait quelque chose qui fait à peu près 5 km à un rythme donc sur lequel on s'adapte à toutes les personnes. Ce sont des balades entre patients diabétiques. Le but, c'est de devenir acteur donc de sa pathologie
Éric Tamin, petite précision également sur le diabète en lui-même, qu'est-ce que c'est ?
Alors, le diabète, c'est une pathologie qui est d'abord indolore, c'est bien la problématique du diabète. Lorsqu'on a mal au genou, on va voir le médecin. Lorsque le diabète commence à s'installer, eh bien, on s'en rend pas forcément compte. Il existe deux types de diabète. Il y a le diabète de type 1 qui est une maladie auto-immune. Celle-là est très souvent prise en charge très rapidement car c'est un manque d'insuline qui est vital pour la vie. Donc, du coup, on est rapidement mis donc sous traitement et c'est en partie réglé. Mais le diabète de type 2, lui, peut donc s'installer progressivement sans qu'on s'en rende compte et commencer à faire ses dégâts. Ces dégâts sont très simples. Un diabète, c'est simplement du sucre, le sucre que l'on consomme, le glucose que l'on consomme, qui va donc sortir des normes au niveau sanguin et on va avoir du sucre qui va circuler dans tout notre système sanguin et qui va venir encrasser tous les micro-vaisseaux, toutes les artères, etc., etc. Et c'est très, très souvent, malheureusement, le cas dans le diabète de type 2, c'est qu'on s'en aperçoit lorsqu'il y a des pathologies qui commencent à être induites par ce diabète déséquilibré.
Éric Tamin, vous faites partie d'une organisation qui mène énormément d'actions, vous êtes sur le terrain et là prochainement donc un planning très chargé, j'allais dire comme d'habitude, à la rencontre d'autres personnes.
Oui, voilà, tout à fait. Donc cette année, on a donc à travers justement cette thématique diabète et donc tabagisme, surtout pour le diabète de type 2, nous serons donc le 24 septembre à la journée Sentez-vous Sport avec donc une initiation au vélo assistance électrique donc pour reprendre en douceur l'activité physique. On sera sur le plan d'eau donc du Champsaur avec une diététicienne, des vélos à smoothie pour les enfants pour leur expliquer et comment bien s'alimenter. On sera en partenariat avec Alpes de Roux qui nous prête des vélos. Il y aura un coach sportif pour faire un tour avec vous en vélo pour vous expliquer l'activité physique et vous découvrirez qu'il est possible de faire des choses fantastiques en vélo assistance électrique. Le 26 septembre, nous serons donc en visio, si vous le souhaitez. Vous trouverez le lien sur notre site sur justement cette thématique du diabète de type 2 et le tabagisme. On aura une visio d'une heure et demie sur Skype. Le 29 septembre, il y aura une projection et échange en partenariat avec le centre culturel de Digne-les-Bains et puis également l'association cinématographique avec une projection du film Sugarland qui dénonce le mode alimentaire que l'on a, les excès actuels au niveau de notre alimentation. Et toujours dans la prévention, on aura des échanges ensuite avec donc un bénévole patient expert et une diététicienne. Et ça se passera à 18h30 le jeudi 29 septembre. On continuera avec le 30 septembre ici assisté donc à la pharmacie de l'horloge toute la journée. Le matin, il y aura du dépistage glycémique. C'est intéressant justement pour savoir si on commence à dériver au niveau de nos glycémies et si on rentre dans le prédiabète. Je vous rappelle que cette pathologie-là est une pathologie indolore. Donc du coup, il faut s'en occuper à partir de 40 ans, de pouvoir faire une analyse tous les ans. Là, c'est gratuit. Et vous aurez également, on sera présent avec notre stand pour vous informer. Et on terminera donc le 1er octobre sur une superbe journée qui va se passer dans le superbe château d'Oraison, dans les salles du château, avec en partenariat avec la Mutuelle de France, avec donc du dépistage glycémique, dépistage maladie rénale, prise de tension. Il y aura également des tests de vue, des tests de l'audition, plus après de la médecine douce, avec puisque ce sera également une journée bien-être. Voilà, donc cette semaine de prévention est un peu plus longue que donc une semaine, parce qu'on a voulu vraiment mettre bouchée double pour pouvoir vous informer le plus et faire notre mission de prévention qui fait partie, on va dire, de 50% de nos missions sur le territoire des Alpes du Sud et également au niveau national, puisque nous sommes 100 associations fédérées à avoir cette même mission au même moment, c'est-à-dire au mois de septembre tous les ans. Nous vous rappelons également que toutes ces actions-là sont bien sûr offertes. Vous pouvez venir donc à toute heure et on sera à l'écoute. Vous pouvez nous contacter donc tous les jours de la semaine au 07 78 26 85 72 sur la boîte mail AFD. Alpes du Sud 0405@gmail.com, que ce soit Twitter ou bien Facebook sur AFED 0405 et sur YouTube AFED 0405.
À Digne, la transition écologique tient son forum.
La deuxième édition du Forum de la transition est axée sur le thème de l'agriculture et des pratiques alimentaires. Pendant 2 jours, stands, ateliers, conférences, tables rondes et expositions vont se succéder pour évoquer les enjeux liés à nos pratiques. Un programme dense organisé dans différents lieux à Digne-les-Bains. Vice-président délégué à l'agroalimentaire et à la ruralité de Provence-Alpes-Agglomération, Bruno Assiaï, puis Mathilde Jimenez, chargée de mission transition écologique, sont au micro d'Odile Frison.
Ce forum, l'objectif, c'est de faire un état des lieux, de dire pourquoi on en est là aussi, et puis c'est demain, comment on fait, est-ce que c'est possible, avec qui, et qu'il y ait des échanges donc, entre tous les participants pour justement que cette prise de conscience se traduise par des actes. Cette année, le thème qui a été choisi, c'est l'alimentation. Par conséquent, l'agriculture, l'alimentation, c'est un des fondamentaux de chaque individu pour se nourrir. Ça a des impacts sur le plan santé, sur le plan environnemental et forcément aussi sur le climat. Les crises successives nous ont fait toucher aussi du doigt l'importance de l'alimentation et notamment notre dépendance qu'on pourrait avoir sur certains produits et donc la nécessité d'atteindre une souveraineté alimentaire. Ça va nécessiter un changement de comportement dans notre façon de nous alimenter, mais aussi de la part du monde agricole dans ses pratiques d'agriculture et d'élevage également.
Vous-même, vous avez changé votre alimentation ?
Oui, personnellement, pour des raisons qui m'appartiennent. Dès 2019, on s'est dit, oui, il faut qu'on change notre façon de nous alimenter, sur le plan santé notamment. Et on s'est aperçu effectivement qu'en réduisant notre consommation, pas pour moins manger, pour mieux manger, avec des produits de qualité et locaux, en fait, le budget alimentation, il n'a pas augmenté. Il a même plutôt un petit peu baissé.
Tout le monde peut se mettre au bio et mieux manger, se limiter aussi parce qu'on mange souvent trop.
Oui, effectivement, c'est possible. On le voit de toute façon, les courbes le montrent. Hein, en matière d'alimentation, on est en surconsommation. La santé, les scientifiques, les médecins le disent aussi. Hein, avec les cancers, l'obésité, les maladies cardiovasculaires sont très souvent liées à une mauvaise alimentation.
Mathilde Jimenez, chargée de mission sur la transition écologique. Vous allez nous parler des invités pour ces tables rondes et forums.
Effectivement, on a voulu donc mettre le paquet cette année aussi, puisque l'année dernière, on avait donc Rob Hopkins qui était venu faire l'ouverture du forum et déambuler dans les stands et rencontrer les acteurs locaux. Cette année, on a voulu rentrer plus dans une table ronde et une conférence plus technique et parler vraiment de manière opérationnelle, parce qu'on a besoin en fait de concrètement dire qu'est-ce que c'est les changements dont on parle et qu'on évoque. On a donc pour la table ronde Denis Léron, qui est un chercheur qui vient du Vaucluse et qui a travaillé sur vraiment l'alimentation durable en fait. Il est spécialisé notamment dans les régimes méditerranéens, qui sont finalement des régimes qui répondent pas mal aux exigences climatiques du moment. Notamment parce que finalement ce qu'on mangeait avant, enfin les régimes méditerranéens dans l'histoire, sont adaptés à notre climat. Et finalement l'idée de revenir un peu aux pois chiches, aux lentilles, il y a tout ça. Et les légumes d'ici, valoriser les produits frais, de saison, enfin tout ce qu'on entend. Mais à un moment il faut bien aussi le mettre en valeur et dire pourquoi en fait, pourquoi c'est nécessaire. Donc Denis Léron pour la table ronde sera accompagné d'un certain nombre d'acteurs qu'on a voulu les plus locaux possibles. Le moins local travaille au niveau régional, donc il est quand même local, mais il n'est pas effectivement du territoire même. C'est le co-coordinateur du GREC Sud, donc du groupement régional d'experts pour le climat de la région Sud, qui viendra du coup présenter. En plus, ils viennent de sortir un nouvel ouvrage sur justement les enjeux climatiques de l'agriculture. Autour de Denis Léron, on a aussi la chargée de mission agroécologie au Parc du Verdon, qui présentera un peu le dispositif dans lequel ils sont engagés pour accompagner les agriculteurs à la transition agroécologique. On aura sur le volet plus alimentation la co-gérante du Nusa Café, Tiane Troussier, qui viendra témoigner de voilà, cette expérience qui est menée sur Digne depuis 3 ans, il me semble, sur comment on peut manger moins de viande, en qualité nutritive aussi. Autour d'elle aussi, Marie-Thérèse Savigny qui a mené une recherche-action sur la démocratie alimentaire et les pratiques alimentaires et l'intégration de toutes et tous vraiment dans cette transition-là. Denis Bail qui est agriculteur, aussi vice-président à l'eau et l'assainissement à Provence-Alpes-Agglo, mais sinon il est agriculteur en culture végétale, en pleine transmission à ses enfants et en pleine conversion agriculture biologique. Donc pareil, un témoignage assez fort. Et enfin, le vice-président au conseil départemental à l'agriculture et au circuit court, Jean-Michel Tron, qui pourra témoigner du mouvement là qui se passe à l'échelle départementale de valorisation de nos agriculteurs, du manger local, mais pas que. L'idée, c'est quand même qu'on discute aussi de la qualité et des enjeux climatiques.
Donc ça, c'est pour la table ronde qui aura lieu vendredi 23 septembre à 17h30 au Centre culturel René Char.
C'est ça. Et j'enchaîne avec donc mes autres invités d'honneur qui sont Arthur Keller et Elena Felderhoff, qui viennent le 23 septembre toujours, mais à 20h30. Donc il y aura le temps d'ouverture bien sûr par la présidente et après donc la grande conférence. Arthur Keller viendra présenter ses travaux sur les risques systémiques et les stratégies collectives de résilience. Il viendra surtout expliquer ce que c'est tous ces mots qui peuvent paraître assez techniques et assez engageants. La résilience, c'est quand même penser aussi tout ce qui peut nous arriver en termes de risques, de bouleversements dans une société, mais comment finalement la société a les moyens pour y répondre et pour s'y adapter. Donc là, on n'est plus sur la transition écologique de manière générale, on n'est pas sur la thématique agriculture vraiment en tant que telle. Et il sera suivi par Lena Felderhoff, avec qui il a collaboré sur un ouvrage, Basculons dans un monde vivable, qui est un ouvrage collectif où en fait c'est beaucoup de témoignages de comment les personnes ont pu basculer vraiment en changeant leur comportement, en étant complètement conscients en fait du modèle dans lequel ils étaient pris finalement, qui est notre mode de vie à tous, hein, le mode de vie capitaliste finalement, et comment on peut chacun basculer. Mais on n'est plus dans le mouvement des colibris là, du petit effort, on est quand même là dans la bascule de changer vraiment sa conception de vie. Et elle témoigne et elle représente un peu une génération entière de jeunes dont je fais partie tout à fait puisqu'on a le même âge. Et voilà comment nous, on a grandi en fait dans ce défi et dans cette pleine conscience de ce qui nous attend. Mais elle est hyper positive et elle saura y trouver quand même un peu l'énergie pour mobiliser le public qui sera venu l'écouter vendredi soir.
Et samedi 24, donc là ce sera le cours des Arès.
Oui, c'est ça. Alors on partage l'espace avec la fête de la rando pour faire une grosse journée P2A. Et surtout, l'idée, c'était de réussir à capter le public du marché. Parce que l'esprit du Forum de la Transition, à l'origine, c'est vraiment de mettre en valeur les acteurs du territoire. Parce que P2A, oui, est engagé, oui, fait des stratégies, mais on a besoin de relais sur le territoire et on a besoin de les mettre en avant aussi, ce qu'ils peuvent faire. Alors, le programme qu'on a imprimé est déjà obsolète, puisque j'ai eu deux nouvelles réponses ce matin. Mais bon, ça, c'est le jeu aussi quand on prévoit. Globalement, on pourra retrouver la SAFER, qui présentera toutes ses stratégies pour installer des nouveaux agriculteurs sur le territoire, en priorité du bio, des cultures qu'on a moins sur le territoire, c'est-à-dire du maraîchage, de la volaille par exemple, enfin de l'élevage un peu diversifié, et comment la SAFER peut accompagner. AgriBio 04 qui représente les agriculteurs du bio en fait dans le département. L'UNESCO Géoparc, alors lui sera plutôt là pour présenter le label Géofood qu'on a lancé en juin dernier. À Fleur de Pierre présentera le dispositif de jardin solidaire, toutes les thématiques autour de la pratique individuelle, on va dire. La map du Pays d'Inois pour se faire connaître un petit peu, puisque le fonctionnement d'AMAP est totalement dans l'esprit aussi. La coopérative Mosaïque, elle installe en fait des personnes qui viennent de se former à l'agriculture. En général, ils sont en reconversion. L'idée, c'est de leur donner un peu un boost pour s'installer et se lancer. Et on a enfin donc Carmejane, en tant que lycée agricole et centre de formation, comment... ils s'inscrivent pleinement aussi dans le défi à relever pour les futurs agriculteurs. Voilà. Et après, au niveau de Provence-Alpes-Aglo, il y aura évidemment le PAT, la transition écologique, le service déchets, qui parlera du zéro déchet et des pratiques de zéro déchet, de anti-gaspillage alimentaire et tout ça. Et il y aura aussi l'équipe du LEADER, donc le financement européen pour les projets de tout un chacun sur le territoire, pour aller dans ce sens. Voilà, donc du solide.
Digne va fêter la randonnée.
Le week-end des 24 et 25 septembre, 700 participants sont attendus pour cette 18e édition de la fête de la rando sur le thème de l'eau. Organisé par Provence-Alpes Agglomération, cet événement s'inscrit dans le plan alimentaire territorial et vers une démarche éco-responsable initiée par l'agglomération dignoise. Nathalie Esclapez, vice-présidente déléguée aux activités de pleine nature, et Mathieu Vincent sont au micro d'Odile Frison. Ils vous donnent rendez-vous pour 38 randonnées et 12 activités outdoor inédites, accompagnées par des bénévoles et en partenariat avec les clubs locaux.
Cette année, en plus des randonnées classiques que nous avions les années précédentes, nous proposons des activités outdoor, des randonnées outdoor plus précisément, donc qui vont constituer à faire du paddle, du canoë, du canyoning, des via ferrata, aussi, sur la Via Ferrata de Prats et celle de Digne. Toutes les randonnées ont lieu sur le secteur de l'agglomération, même les randonnées qui concernent le canyoning notamment. Il faut savoir que toutes les randonnées sont encadrées par des bénévoles du comité départemental de la randonnée qui nous soutient beaucoup sur cette manifestation et nous aide aussi tout au long de l'année puisque l'agglo propose 150 randonnées différentes qui sont ouvertes à l'année. Donc le week-end du 24 et du 25 septembre, vous pouvez découvrir les randonnées à des tarifs allant de 5 à 15 euros. Il faut s'inscrire auprès de l'office de tourisme de Digne-les-Bains par téléphone et le rendez-vous est à Digne. Nous incitons fortement le covoiturage dans une démarche éco-responsable que nous avons voulu mettre en avant cette année avec donc aussi la dégustation de produits locaux issus exclusivement de notre territoire.
On va revenir sur donc cette évolution vers des démarches éco-responsables. Avant, vous offriez, c'est ça, des t-shirts aux participants ?
Oui, c'était des petits cadeaux essentiellement, voilà, des t-shirts, ça pouvait être des casquettes ou d'autres objets de ce genre. Et donc cette année, à la place, nous avons décidé de leur faire plutôt découvrir nos produits locaux, ce qui évite voilà, notamment tout ce qui est plastique. Et ça cadre aussi notre démarche éco-responsable avec le thème de l'eau qui est aussi une sensibilisation dans cette période de sécheresse à découvrir les richesses de notre territoire et surtout à les préserver.
Alors justement, avec la sécheresse qu'on a connue, il n'y a pas de problème pour faire du canyoning et ce genre de choses ?
Non, non, aucun problème en tout cas pour faire du canyoning ou du paddle ou autre. Même si les niveaux d'eau sont plus bas que d'habitude, les rivières et les lacs restent accessibles en toute sécurité.
C'est donc la 18e édition de la fête de la rando. Est-ce que le public évolue ? Est-ce que c'est plus des familles ? L'année dernière, ça a eu lieu avec les histoires de confinement, tout ça. Est-ce que le public a baissé ?
Mathieu Vincent, donc, en charge du service activité pleine nature à Provence-Alpes Agglomération. L'an passé, on avait eu 400 participants avec une condition météo difficile le dimanche, de fortes précipitations et puis la crise sanitaire aussi qui avait rendu l'événement difficile. Cette année, on a jusqu'à 700 places disponibles pour participer à la fête de la randonnée sur l'ensemble du week-end, le samedi ou le dimanche.
Et c'est un public de gens un peu novices de la rando ou pas ? C'est des personnes qui sont déjà inscrites à des clubs ?
Traditionnellement, c'est souvent des randonneurs qui sont déjà inscrits dans des clubs ou qui ont déjà participé aux éditions précédentes. Plutôt des personnes un peu plus âgées qu'on retrouve sur cette manifestation. La volonté était justement de diversifier les pratiquants, d'où notre souhait d'ouvrir aux autres activités outdoor, justement pour rajeunir un peu notre cible de clientèle et permettre de découvrir les autres activités praticables sur le territoire et donc toucher aussi d'autres publics.
Donc cette année, vous attendez combien de personnes ?
700 personnes.
Et alors, si c'est un week-end qui s'annonce pluvieux avec des orages, évidemment, tout est annulé ou ça peut être reporté ?
Alors non, ça ne peut pas être reporté. Par contre, on essaye d'adapter au maximum les randonnées avec la météo, celles qui peuvent se faire, celles qui ne peuvent pas se faire.
Est-ce que pendant la randonnée, il y a des animations avec découverte de la faune, de la flore ? Est-ce que ça fait partie du programme ?
Chaque animateur, en fait, décide de comment il gère sa randonnée. Donc, en général, oui, il y a une explication sur différents thèmes au fil de la rando.
Pour la préparation, j'imagine qu'il faut de nombreux bénévoles. Combien de personnes participent à l'élaboration du projet ?
Il y a une centaine de bénévoles, entre animateurs et organisateurs.
Est-ce qu'au niveau de la sécurité aussi, il faut absolument avoir des secouristes à chaque rando ? Non.
Non, non, c'est pas quelque chose qui est obligatoire.
Les inscriptions à la journée sont au tarif de 5 euros et avec ce montant-là, donc ça vous donne droit de participer à la manifestation, de profiter de la sortie encadrée pendant toute la journée avec deux animateurs. Vous avez le droit également à une collation le matin avec des produits locaux et bio. Une collation au retour de la randonnée, un petit apéritif le soir et une tombola également en fin de journée. À la fin de chaque journée, le samedi soir et le dimanche soir, au retour des randonnées, on fera une petite tombola aux alentours de 17h, ou avec un tirage au sort, et il y aura des cadeaux offerts aux participants.
Quel type de cadeaux ?
Donc on est sur un partenariat avec la Fédération Française de la Randonnée Pédestre, donc on aura des topo-guides, on aura des accès au spa thermal de Haute-Provence également, et du matériel outdoor avec des sacs à dos fournis par le magasin de sport de Digne-les-Bains. Donc on vous invite vivement à venir participer à la fête de la randonnée.
DLVA et culture en avant toutes.
C'est une compétence majeure de l'agglomération Manouskine. Outre la gestion et le fonctionnement de nombreux équipements dédiés à la culture, l'action culturelle reste un choix fort de l'intercommunalité. Médiathèques, écoles de musique et conservatoires, festivals et subventions aux associations, Durance-Luberon-Verdon Agglomération anime et soutient un secteur qui a beaucoup souffert ces deux dernières années. En rappelant les rendez-vous passés et à venir, des musiques à Manosque et estivales, en passant par le cinéma en plein air ou la fête du livre jeunesse, sans oublier le très attendu festival des correspondances, le doute n'est pas permis. Le territoire joue la carte culturelle de belle manière. Avec aussi le projet de rénovation de la maison de Jean Giono et ses abords à Manosque, dont la récente inscription au loto du patrimoine de la mission Berne est un coup de pouce financier que les élus apprécient et attendent. Nous évoquons ce futur chantier avec la vice-présidente de l'agglomération, Sandra Faure, mais d'abord, le président souligne l'investissement constant de l'intercommunalité après deux années sinistrées. Jean-Christophe Pétrini.
DLVA a toujours cette politique ambitieuse et volontariste en matière de culture et la conservera tout au long du mandat. Cette année, on espère justement un rebond par rapport aux deux années compliquées que l'on a eues en 2020 et 2021 par rapport au Covid. C'est la raison pour laquelle notre programmation culturelle dans son ensemble est ambitieuse. Nous avons fait donc aujourd'hui cette conférence de presse pour montrer que nous sommes sur tous les fronts en matière culturelle sur le territoire.
C'est un budget conséquent qui comprend effectivement le fonctionnement des médiathèques, le fonctionnement de l'école de musique, etc.
Oui, alors il y a le fonctionnement des médiathèques, il y a la partie spectacle vivant, il y a la partie école de musique, école de danse. On a mis l'accent cette année sur la jeunesse. La programmation de la saison culturelle va permettre de proposer des spectacles à nos plus jeunes. Un accès également aux écoles de danse et de musique avec des quotients familiaux qui ont été mis en place pour permettre donc aux enfants des familles les plus défavorisées d'accéder aussi à l'enseignement musical et théâtral. Donc voilà, vraiment une programmation plus qu'éclectique sur le territoire.
Et une action culturelle qui se déroule 365 jours sur 365.
Oui, bon, bien entendu, avec une forte programmation l'été, notamment au niveau du spectacle vivant, mais qui continue tout au long de l'année, avec la programmation culturelle théâtrale. Et également dans l'ensemble des médiathèques, des propositions de spectacles, de conférences tout au long de l'année.
Sandra Faure, vice-présidente déléguée à la culture, et vous avez annoncé évidemment l'évolution du projet de restauration et d'aménagement de la maison Giono à Manosque.
Oui, avec la merveilleuse nouvelle de la participation de Mission Patrimoine de Stéphane Bern pour le Paraïs et avec, je l'espère, un gain important pour pouvoir mettre sur les travaux à venir et ça sera une aide plus que souhaitée.
Alors que va-t-il se passer justement à ce Paraïs, cette maison qui a vécu avec Giono pendant de nombreuses années et qu'il a vu écrire tous ses chefs-d'œuvre ?
Dans un premier temps, on va faire la réhabilitation de la maison, mais une réhabilitation telle que Jean Giono l'a connue, puisqu'il y avait eu une partie qui avait été ajoutée par Aline, la fille aînée de l'écrivain. Cette partie-là va disparaître et on va remettre la maison donc telle que Giono l'a connue. C'était important de refaire ce bond dans le passé et de pouvoir la proposer au public telle qu'elle était. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va faire l'aménagement des jardins qui sont au-dessus de la maison pour en faire un vrai lieu d'accueil et de médiation, ce qui n'est pas toujours le cas au niveau de la maison, puisque les jeux sont limités et pas forcément avec un bâtiment qui est très accessible.
Les professionnels sont déjà choisis, maîtres d'œuvre, paysagistes ?
Oui, alors tout est choisi. Donc on a un groupement d'architectes qui est conduit par Régis Roudy, l'architecte Aix-en-Provence. Et on a aussi une paysagiste, donc Sarah Tim, qui va s'occuper des jardins. Et un architecte du patrimoine qui est Sébastien Corde pour s'occuper de la maison.
En termes de calendrier ?
On espère, si tout va bien, un début des travaux pour mai 2023 l'année prochaine. Et on espère que tout sera terminé d'ici juin 2024.
D'ici là, bien sûr, la semaine prochaine, ce sont les correspondances qui démarrent et un temps fort pour Manosque, mais aussi pour l'agglomération.
Oui, l'événement, j'allais dire, de l'année, celui qui permet d'accueillir plus de 25 000 festivaliers chaque année. Et c'est un honneur d'avoir ce festival. C'est une très belle vitrine pour Manosque. Et on est toujours très heureux. Et c'est vrai que voilà, c'est l'événement qui commence aussi à, il faut le souligner, à partir un petit peu dans les communes des alentours, ce qui lui donne une vraie identification territoriale. Et c'est intéressant. Notamment, il y aura un écritoire, il faut le savoir, par exemple, à la Voûte des Arts, à Pierre-Vert. Voilà, c'est des petits changements, mais sinon, évidemment, c'est le festival du centre-ville de Manosque, avec le bonheur de pouvoir accueillir du monde, et des plus jeunes aux plus âgés.
Un marathon pour la biodiversité.
L'opération en Pays d'Inois est ambitieuse et doit se dérouler jusqu'en 2025. Ce projet s'adresse aux exploitants agricoles, aux mairies, ainsi qu'à des propriétaires privés fonciers sur 16 communes. L'appel à candidature pour le marathon de la biodiversité est lancé. Responsable du service environnement à Provence-Alpes Agglomération, Nicolas Morel répond aux questions d'Odile Frison.
Nicolas Morel, aujourd'hui, il y a toujours urgence, au même titre que l'urgence climatique, de s'occuper de la biodiversité.
C'est une opération, effectivement, qui rentre dans le concret, j'allais dire. On nous reproche parfois de faire des plans, beaucoup de théories. Là, on est vraiment dans les aspects concrets de la biodiversité, puisque, vous le savez, dans le cadre du plan climat air énergie territoriale, qui est un outil de planification, on a l'axe numéro 6 qui concerne l'adaptation au changement climatique. Et l'adaptation au changement climatique, c'est aussi l'urgence de s'occuper de la préservation de la biodiversité. Alors il y a différentes manières de s'en occuper, de la préserver. Et là, cette opération inédite, elle est tout à fait originale parce qu'elle s'inscrit dans la durée jusqu'en 2025. Donc c'est une opération de 4 ans, d'où le nom de marathon. Et elle associe de multiples partenaires autour d'une thématique commune qui est la replantation de haies ou la plantation de haies, et la création de mares.
Alors pour ça, vous lancez un appel à projet, donc qui s'adresse à qui?
Alors, on lance un appel à candidature pour la création de haies et de mares. L'objectif, c'est de créer 10 km de haies dans les 4 ans qui viennent et une dizaine de mares sur le territoire de Provence-Alpes Agglomération, mais pas n'importe où. Ce projet s'inscrit dans des secteurs géographiques assez particuliers, c'est-à-dire qui allient à la fois des zones humides et terrestres, ce qu'on appelle la trame turquoise, c'est-à-dire où l'on va trouver des espèces animales et végétales qui sont à l'interface des milieux terrestres et aquatiques. Donc ce projet s'adresse aux exploitants agricoles qui sont en premier lieu concernés par leurs terres, ils ont beaucoup de foncier et puis ils avaient autrefois des haies, parfois qui ont disparu, parfois elles existent toujours. Elle s'adresse également aux communes, puisque les communes disposent parfois de foncier et qu'elles ont peut-être aussi des projets de valorisation de leurs terres, et puis à des propriétaires privés fonciers qui souhaitent peut-être aussi créer ce type d'aménagement des haies ou des mares.
Alors vous parlez de 16 communes ?
16 communes sur le territoire de Provence-Alpes Agglomération, qui sont réparties en deux secteurs majeurs, qui sont la vallée de la Blanche, et donc un secteur qui regroupe la moyenne du Rance, la basse vallée de la Bléone, et la moyenne vallée de l'Asse. Donc c'est en fait trois sous-secteurs qu'on a regroupés ensemble parce qu'on retrouve à peu près les mêmes problématiques et les mêmes unités paysagères et biogéographiques. Donc un secteur sud, pour faire simple, et un secteur nord avec la vallée de la Blanche.
Est-ce que vous pouvez citer l'ensemble de vos partenaires ?
Oui, alors parmi les partenaires essentiels de cette opération, nous avons le Conservatoire d'espaces naturels Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a réalisé le diagnostic, c'est-à-dire l'état des lieux de départ, qui a permis de définir justement ces secteurs géographiques, et puis aussi qui est le référent biodiversité de la région. Nous avons la Chambre d'agriculture des Alpes-de-Provence, bien entendu, puisque, je vous le disais il y a quelques instants, ce projet s'adresse essentiellement aux exploitants agricoles. Et puis la SAFER, qui est un peu à l'origine de cette candidature de P2A, puisque on a été fortement incité à candidaté à cet appel à projet de l'Agence de l'eau. Il faut le préciser, c'est l'Agence de l'eau qui porte le marathon de la biodiversité et c'est l'Agence de l'eau qui finance en grande partie cette opération. Et ensuite, on a d'autres organismes comme le GR Sivam ou Agrouf, qui sont en fait des organismes d'agroforesterie spécialisés dans l'agroforesterie, c'est-à-dire la plantation notamment de haies. Il y aura donc cet appel à candidature qui va se traduire par deux réunions publiques très prochainement. Et je pense qu'il faut noter les dates. Ce sera, la première aura lieu le 13 septembre à la mairie de Seyne. Donc c'est vraiment une réunion publique. Toutes les personnes qui sont intéressées par ce projet pourront se rendre à Seyne sur la vallée de la Blanche, donc pour prendre connaissance des conditions de réalisation de ce programme. Et puis on aura une deuxième réunion le 7 octobre au Mai à la maison des associations des Mais. Et là aussi, c'est le même type de réunion qui s'adressera aux communes, aux exploitants agricoles, aux propriétaires fonciers des secteurs de la Bléone, de la Durance et de l'As. Les candidatures seront reçues par la Chambre d'agriculture pour les exploitants agricoles qui le souhaitent et par P2A, Service Transition Écologique, pour les communes et les propriétaires fonciers. Et la clôture des candidatures est prévue le 30 novembre. Et au mois de décembre prochain, donc, une commission se réunira pour sélectionner les projets les plus pertinents et qui s'inscrivent vraiment dans ces conditions de réalisation. À partir de là, des sessions de formation seront proposées aux lauréats, donc qui pourront en janvier et février bénéficier des formations du GR Sivam et de la SCOP Agrouf pour la plantation de haies et la création de mares. Alors, au niveau des aspects financiers, il faut savoir que Provence-Alpes Agglomération, donc qui pilote ce programme, prendra à sa charge 90% du coût des plants, il fallait acheter des arbres et des arbustes pour la constitution des haies, et 10% resteront à la charge des attributaires. Donc par exemple, sur un investissement d'achat de 12 000 euros de plants, 1 200 euros devront être pris en charge par les attributaires. Et pour les mares, donc une enveloppe forfaitaire de 3 à 5 000 euros, entre 3 et 5 000 euros, pourra être attribuée en fonction des projets de création de mares pour la réalisation de ces mares. Là aussi financé par P2A avec un fort soutien financier de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse.
C'est la fin de ce magazine. Merci François.
Merci à vous Olivier pour la régie. Juste une petite annonce, vous rappelez que ce week-end, il y a un grand événement qui se déroule dans toute l'Europe et évidemment chez nous, chez vous. Ce sont les journées du patrimoine. Profitez-en, sortez en famille, tout seul et allez visiter les lieux et les endroits qui ont fait à la fois la culture et en même temps la grandeur de notre pays et de notre région. C'est ce week-end, les journées du patrimoine. Merci encore Olivier, à la semaine prochaine.